Il est 9h41, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Il est livreur de sushi au Bangladesh, il était champion d'échecs. Il tient le marteau-piqueur sur les chantiers. Au Sénégal, il étudiait la philosophie et l'architecture. Des travailleurs sans papier que nous croisons au quotidien, nous ne connaissons ni la vie d'avant, ni la vie de maintenant. Pas de papier, pas d'identité, pas de droit, pas de dignité. Un documentaire télé n'a pas le pouvoir de redonner à un être humain son état civil, mais il peut lui offrir de retrouver son nom, son visage, son histoire. Et vous savez quoi? Il peut le faire en musique et en couleur. Bonjour Andrea Rollins-Gaston.
Bonjour Sonia de Villers.
Avec Laurent Folea, vous co-signez Clandestin, d'autres vies que la vôtre, ce soir, 23h10 sur France 2. On y vient, mais d'abord, on va laisser Bruno Donnet jouer aux petites voitures. Salut Bruno.
Bonjour, vroom vroom.
Vroom vroom.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors un œil sur l'actu média. Pour commencer, le CSA reçoit aujourd'hui la direction du groupe Canal+, pour évoquer l'avenir de iTélé, dont 98 journalistes ont officialisé leur départ. Jean-Pierre Elkabbach, ex-Europe 1, qui rejoint le premier cercle autour de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est le premier actionnaire du groupe Canal+, devrait piloter la refonte de la chaîne. Rachid Arab et Patrick Poivre d'Arvor auraient été approchés, selon nos confrères du site Les Jours.
Nå klokken ni starter dag to I rettssaken mot Eirik Jensen. Og lastebilsjåfør reddet livet ved å hoppe ut av farlig bil. Her NRK Dagsnytt klokken ni.
Bruno Donnet, vous êtes fluent en norvégien?
Je te klein de fleur de mur.
C'est ça, voilà. Ça voulait dire bonjour et bienvenue. Vous êtes toujours sur France Inter. Demain en Norvège, demain mercredi 11 janvier, mourra la radio FM. Cette extinction se fera ville après ville tout au long de l'année 2017. Place au numérique. Donc la Norvège, premier pays au monde à arrêter la radio analogique. La Suisse devrait prendre le relais. Alors Bruno, jeudi dernier, vous avez fait une découverte nocturne sur France Absolument. 2 qui vous a donné très envie de nous parler ce matin de la couverture du Dakar par France Télévisions.
Oui Sonia, il était un peu tard jeudi dernier lorsque je suis tombé, tout à fait par hasard, sur la toute dernière minute d'un magazine intitulé Bivouac, ou plus exactement sur les tout derniers mots du présentateur qui annonçait la suite des réjouissances. Entendez par là les prochains rendez-vous consacrés au Dakar.
18h45, Lionel Chamoulot, France 4 pour le direct. 20h10, le journal du Dakar sur France 3. Minuit 45, bivouac demain sur France 2. Et la rediffusion, bien évidemment, sur France O à 8h.
Voilà, c'est donc ainsi que j'ai découvert que France Télévisions diffusait tous les jours trois émissions différentes consacrées au Dakar sur quatre chaînes de son groupe. Du coup, je me suis posé une question. Quelle valeur de service public le Dakar peut-il bien véhiculer pour qu'on lui accorde autant de temps d'antenne sur France Télévisions?
Bonne question.
Et la réponse? La réponse, Sonia, c'est aucune. Zéro, nib, nada, walou, que dalle comme vous voulez. Pourquoi? Primo, parce que ce rallye est une pure entreprise commerciale dans laquelle la pub pour les grandes marques de bagnoles ou de motos a depuis bien longtemps pris le pas sur la dimension d'aventure. Deuxio, parce que ça pollue à mort. Ça pue comme tout, hein. Le Dakar, ça émet 42 000 tonnes de CO2 à chaque fois. C'est deux fois plus, par exemple, qu'un Grand Prix de Formule 1. Et troisio, parce que ça tue depuis la création de la course en 1978. Je vous ai fait un petit topo. Alors, on a eu 9 gosses tamponnés par des bagnoles, 33 concurrents désingués, 7 journalistes, ok. J'arrête là le décompte macabre pour vous dire qu'il y a quand même eu 60 morts en tout, ça nous en fait quasiment 2 chaque année. Et puis, parce que contrairement au prosélytisme ahurissant auquel se livrait encore hier soir France Télé dans un de ses reportages qui nous vantait le rallye comme ceci.
C'est un moment qui restera dans toutes les mémoires et surtout dans les cœurs. L'arrivée du Dakar à la passe. Sur des dizaines de kilomètres, les Boliviens crient leur amour et leur fierté.
Non, tous les autochtones ne crient pas leur amour et leur fierté de voir passer le Dakar sur leur plate-bande. Bien au contraire, en 2014, par exemple, un groupe d'archéologues chiliens s'était plaint que le rallye ait massacré sur son passage des géoglyphes antiques, c'est-à-dire des grands dessins symboliques tracés à même le sol il y a des siècles. Et en 2013, au Pérou, cette fois, des anthropologues avaient hurlé au sacrilège après que le Dakar eût écrabouillé l'un des plus anciens gisements de fossiles au monde. Alors, Ok, le Dakar c'est quelquefois rigolo, surtout lorsque Johnny Hallyday passe une heure et quart dans le désert à changer la roue de sa bagnole et qu'à l'arrivée il nous balance son analyse à la précision suisse.
Tu te rends compte, si on pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Implacable, mais le plus souvent c'est un truc totalement navrant, un débarquement de cow-boys fluo qui viennent faire dégueuler leurs chevaux vapeur et qui se comportent comme des colons cyniques et tout puissants. Bref, un machin qu'il n'y a absolument plus aucune urgence à organiser et encore moins à retransmettre quotidiennement sur quatre chaînes du service public, sauf à envoyer pour couvrir l'événement celui qui est au Dakar, ce qu'Antoine Blondin fut au Tour de France, Renaud, le chanteur, dont je recommande vivement ici à tout l'état-major de France Télévisions de réécouter urgemment son parfait résumé de l'épopée.
500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent de Ténéré.
Bonne journée.
Merci Bruno, 500 connards sur la ligne de départ. Merci d'avoir passé Renaud. Voilà, heureusement que le service public ne met pas toutes ses billes dans le vroom vroom, n'est-ce pas Andrea Rollins Gaston. Ils étaient 500 connards sur la ligne de départ et ils arrivirent 5.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Alors, Andrea Rollins-Gaston, plusieurs de vos films ont largement marqué les esprits des téléspectateurs français. Tous ont reposé sur des témoignages. Témoignages de femmes violées, d'enfants harcelés à l'école. Aujourd'hui, témoignages de 500 papiers. À chaque fois, témoigner pour briser le silence, le tabou ou pire, c'est ce qu'on découvre dans ce film, l'indifférence, témoigner à visage découvert.
Ouais, ce sont effectivement 5 ce qu'on appelle des sans-papiers, des clandestins, des migrants économiques. Et ce sont des gens absolument extraordinaires.
Ce ne sont pas ceux qu'on voit aux 20h tous les soirs. Ce ne sont pas les migrants, les réfugiés de Syrie. Ce ne sont pas ceux qui fuient les bombes aujourd'hui de Daesh ou le Moyen-Orient.
Ouais, ils fuient une autre guerre, celle contre la misère. Et du coup, ce sont les nuisibles, les parias de l'immigration, l'angle mort de l'actualité. Ceux qu'il faut expulser en priorité, il n'y a pas de place pour eux. C'est déjà compliqué pour les réfugiés politiques de les accepter. Alors les migrants économiques sont ceux qui a priori dans l'esprit.
Et qu'est-ce que vous avez appris film après film justement d'aller justement sur le terrain convaincre tous ces gens-là qui sont des victimes, film après film, ce sont des victimes que vous filmez, de les convaincre de témoigner pour la télévision?
Alors, il y a deux choses. Oui, ce sont des victimes, mais avec Laurent Folea, avec qui j'ai réalisé ce film, et le précédent sur le harcèlement scolaire, on les filme véritablement comme des figures de proue. Pas du tout comme des victimes, c'est-à-dire que c'est des optiques cinéma, ils sont maquillés, il y a une lumière de dingue, c'est ultra coloré, on n'est pas du tout dans le misérabilisme et dans le pathos. Au contraire, on essaye de leur rendre cette dignité, cette humanité, en tout cas les sans-papiers dont ils ont été privés depuis de nombreuses années. Et ce qu'on apprend, c'est que la chance qu'on a, c'est effectivement qu'on passe un an avec eux et qu'on a le temps de creuser et de se poser avec eux et de découvrir, comme je le disais tout à l'heure, des parcours à la Victor Hugo, des gens extrêmement courageux, extrêmement honnêtes.
Raman, ouais. Fanny, Emma, Armando, d'autres vies que les vôtres, avez-vous intitulé le film? Pourquoi pas d'autres vies que les nôtres? Pourquoi vous ne vous englobez pas dedans?
Parce que le principe du film, c'était qu'ils s'adressent à nous. C'est eux qui s'adressent à nous.
Donc à vous, téléspectateurs.
Voilà.
À vous, téléspectateurs.
Exactement.
Des vies d'avant qu'on ne connaît pas, des vies de tous les jours qu'on n'imagine pas, on écoute Sidi.
Quand on est sans papier, on ne peut pas vivre normalement. C'est-à-dire, on a toujours cette peur au ventre. S'il y a, par exemple, il y a une sirène de police qui hurle, je sursaute. J'ai peur, quoi. Je dis, peut-être que c'est l'heure, quoi. T'as toujours ça à l'esprit que... Peut-être qu'en tant que sans-papier, c'est toi qu'on cherche. C'est toi qu'on cherche.
Tous vous racontent ça. Sidi est arrivé du Sénégal depuis 7 ans. Tous vous racontent qu'ils vivent traqués ou dans la peur d'être traqués. Et ça, ça fait un quotidien en enfer, tout simplement.
Ouais.
Emma, par exemple, vous raconte que Elle ne peut pas rester dans le salon de beauté quand une cliente sort. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elle fait les 100 pas sur le trottoir tellement elle a peur d'un contrôle de police. Rahman vous raconte que il conduit un scooter le plus vite qu'il peut.
Oui, parce qu'il livre des sushis.
Pour livrer des sushis, mais qu'il est le seul de toute l'équipe des livreurs à pas pouvoir griller un feu rouge.
Ce qui n'est pas plus mal, cela dit.
Ce qui n'est pas plus mal, mais c'est ce vers oui. quoi les patrons vers
les pousses, patrons, absolument. Les
pousses. Vous l'avez dit, la photo est particulièrement soignée, il y a un travail sur les couleurs vives. Vous les avez fait poser tous les cinq dans un décor au début du film et vous avez choisi trois couleurs primaires pour les entourer. Vous les filmez également dans des vêtements aux couleurs vives et unies, orange, vert, bleu, jaune, rouge. Vous les avez fait s'habiller.
Absolument. Oui, oui. Enfin, vraiment, on leur a demandé de s'habiller avec des vêtements dans lesquels ils se sentaient à l'aise. Mais ça faisait partie, on leur a suggéré de se rendre visibles. Et vraiment, c'est le film, c'est ça. C'est les rendre dignes, les rendre visibles. Et ça passait également par une charte graphique. Ouais, absolument.
C'est ça, parce qu'il faut sortir finalement un personnage de son contexte social habituel pour nous renvoyer, nous, téléspectateurs, à cette multitude de signes qui font que, tout simplement, on détourne le regard.
On détourne le regard et puis eux aussi cherchent à rester le plus discret c'est possible.
Ils baissent les yeux,
oui,
ils rasent les murs.
Ouais. Et finalement, ce film, il raconte quoi ? Il raconte, voilà, toutes ces personnes, elles travaillent à notre service. Mm-hmm. Elles sont notre livreur de sushis, elles sont voilà, notre nounou ou celle de notre copine. C'est eux qui démolissent des dalles en béton amiantées. Et sans eux, il y a plein de pans de l'économie française qui ne fonctionnerait pas.
Alors, il y a un témoignage, par exemple, qu'on a choisi de ne pas diffuser ce matin. C'est celui d'Emma. C'est une femme chinoise de 60 ans qui est arrivée il y a 10 ans en France avec l'un de ses 3 enfants seulement. Elle a laissé les 2 autres dans son pays. Elle est totalement à cran, elle est totalement à fleur de peau. Elle craque, elle sanglote. C'est l'une des seules, d'ailleurs. Et pourtant, quand vous la filmez, cette femme est d'une beauté. Son visage est totalement radieux. Elle est dans sa tenue de Taichi rose et elle est magnifique. Et donc on ne peut pas dissocier dans votre film le son et l'image, Andrea Gaston-Rollins.
Non, c'est vraiment une collaboration avec Laurent Folea. On voulait un film cinématographique.
C'est ça.
Vraiment, enfin. Voilà, le film est diffusé à 23h ce soir, mais c'est un film ovniesque, quoi. Vraiment, dans son fond, dans ce que racontent ces personnes, vous allez être bouleversé, vous allez découvrir des choses
alors,
que vous ne soupçonnez
Sidi,
pas.
Alors on écoute Sidi, justement, ouais. Le Sénégalais.
Je rêve de me retrouver enfin en tant que Sidi. Moi, je me suis appelé Kalidou, je me suis fait appeler Keladio, je me suis fait appeler Ismaël. Vivre sous alias, c'est pas une vie. En perdant l'identité aussi, on perd tout. Personne n'est né avec une étiquette d'état civil autour du cou. Mais pourquoi on tient compte plus que du papier que de la personne humaine ? Que sa valeur.
Alors, il y a trafic de faux papiers, il y a trafic d'identité, et c'est ce que racontent vos personnages. Tous les patrons le savent, toutes les boîtes d'intérim le savent, mais l'administration française le sait et ferme les yeux.
Ce qu'on découvre dans ce film, effectivement, c'est que... aujourd'hui, pour pouvoir travailler quand on est sans papier, pour pouvoir survivre, parce que toutes ces personnes veulent vivre dignement, honnêtement, et donc ne pas tomber dans la délinquance. Et donc, ils souhaitent avant toute chose, c'est pour ça qu'ils sont venus, travailler. Et pour travailler quand on est sans papier, eh bien, les employeurs encouragent les personnes sans papier à prendre les papiers d'un frère, d'un cousin qui
a
des papiers.
Ça rapporte de l'argent.
Et voilà. Et donc, ils sont souvent 3 ou 4 à travailler avec la pièce d'identité d'une personne. L'employeur le sait pas pertinemment.
Et c'est autant de cotisations dans les caisses de l'URSSAF.
De l'URSSAF, absolument. Ouais.
Alors vous avez choisi aussi de ne pas aller filmer ces patrons esclavagistes, de ne pas aller filmer ces chambres de 8 mètres carrés où on s'entasse à 8 dans la crasse et la puanteur, où on se fait voler toutes ces affaires. Vous avez choisi de les filmer dans des décors qui ressembleraient presque à des catalogues IKEA. Pourquoi ?
Catalogue IKEA, je sais pas, mais en tout cas, ce sont des décors beaux, voilà. Une fois de plus, on voulait sortir du misérabilisme et créer un écrin qui fasse qu'on entende leurs paroles et qu'on se dise pas une fois de plus qu'on sorte des préjugés. Voilà, ça va être un film lourd, ça va être un film triste. Je pense que c'est pas un film lourd, c'est pas un film triste. C'est un
film... Là, on entend Rahman raconter qu'il travaille 7 jours sur 7, payé 7 euros de l'heure, tous les jours de l'année, qu'il n'a jamais de congé, et que s'il est malade, eh bien, tout simplement, il n'est plus payé. On entend Sidi dire qu'il ne peut pas refuser le marteau-piqueur ou l'amiante parce que d'autres attendent derrière. Donc là, ce que vous décrivez aussi, c'est une zone de non-droit absolument terrifiante qui est là, au quotidien, parmi nous.
C'est-à-dire qu'ils cotisent, comme on vient de le dire, ils cotisent, et certains payent même leurs impôts, mais en échange, ils n'ont aucun droit. C'est-à-dire, comme vous dites, s'ils tombent malades, ben, c'est tant pis pour eux. Si, ben, voilà, ils n'ont aucune couverture, aucun droit. Ce sont des sous-êtres humains qui pourtant cotisent et participent
et
à notre économie.
Et ça va au-delà de ça, Andrea Rollins-Gaston, puisque Fanny, par exemple, qui est nounou, raconte comment elle se fait harceler sexuellement dans un restaurant où elle a travaillé. Elle ne peut pas appeler la police, tout simplement. Elle ne peut pas appeler la police.
Bah, la majorité des sans-papiers sont des proies. Enfin, on a aujourd'hui peur de l'attentat terroriste. Mais ces personnes-là, elles sont dans les clous graves, quoi. Elles ne peuvent pas se permettre de faire un pas de côté, de sortir des clous. Et surtout, ce sont des proies pour les agresseurs sexuels. Par exemple, toutes les femmes que j'ai rencontrées pour préparer ce film avaient toutes subi des violences sexuelles. Parce que ce sont des proies faciles. Et les agresseurs les repèrent et se disent « je suis tranquille, elle ne portera pas plainte, elle ne peut pas ».
Alors vous leur faites raconter leur histoire. Et ça, on sent qu'il y a une belle réparation quand on peut raconter son histoire. Et il y a un moment qui... où eux sont bouleversés, systématiquement bouleversés, même ceux qui ont le sourire du début à la fin du film, et où nous, on craque aussi, si ce n'est pas eux, c'est le jour du départ. Exhumer le jour du départ.
Pour en arriver là, il faut déjà comprendre que pour que ces personnes se déboutonnent et vous racontent des choses aussi intimes, parce que l'objectif, c'était vraiment ça, c'est qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as sacrifié. Ces personnes-là n'ont pas l'habitude d'en parler d'abord culturellement, mais aussi, je pense, parce que si elles en parlent, elles s'effondrent, parce que c'est tellement violent, tellement dur, les sacrifices sont tellement dingues. Et donc, pour ce film, ils ont accepté de le faire. Et c'est faire vraiment tomber des barrières et se mettre en fragilité aussi, parce qu'ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Il faut imaginer que ce sont des pères comme ceux qui nous écoutent, des mères comme vous et moi.
C'est un film sur la séparation. C'est un film sur la séparation. Sur
ce que c'est de ne pas avoir leurs enfants depuis 5 ans. Rahman dit à un moment, moi je n'ai pas caressé le visage de ma fille depuis 5 ans, je n'ai pas caressé les cheveux de ma femme depuis 5 ans. Sidi raconte que sa fille avait 5 mois, sa petite dernière avait 5 mois quand il est parti. Il l'a vue pour la première fois 5 ans après par Skype. Elle ne le reconnaissait pas, elle ne savait pas qui il était.
Et puis vous avez mis en scène ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire une photo de ceux qui sont restés au pays.
Ouais, dans des valises, une photo ou parfois c'est une robe pour Fanny. C'est, elle a emporté la robe de sa mère.
Avec l'odeur
elle
de sa mère.
Elle parle de l'odeur de sa mère, voilà, de cette robe. D'autres, c'est un diplôme. Sidi a quand même le bac, a quand même fait des études de philo. Voilà, il espérait en partant, parce que Sidi, il est parti parce qu'il ne pouvait pas soigner son fils qui était gravement malade. Pourtant, il travaillait au Sénégal. Malgré ses diplômes, il ne pouvait pas soigner son fils. Et donc, il s'est dit, voilà, je le tente. Et donc, il est arrivé en France avec ses diplômes. Il a même passé un diplôme d'architecture en France. Vous allez voir, c'est un garçon extrêmement brillant.
Il ne peut rien en faire parce qu'il n'a pas de papier.
Absolument.
Voilà, et vous découvrirez le destin de Rahman.
Moi, j'aimerais vraiment que plein de personnes le voient, notamment des hommes et des femmes politiques. Je sais pas, le président de la République, parce vraiment,
c'est un film politique.
Ce sont vraiment des personnes dont la parole mérite d'être entendue, et je suis sûre que vous ne l'avez jamais entendue comme ça.
Merci beaucoup. D'autres vies que la vôtre, c'est France 2 et c'est 23h10. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Grand bien vous fasse.
Comment se déconnecter du boulot dans sa vie personnelle? Vous y arrivez?
Non.
C'est difficile.
Non.
Et vous, comment faites-vous pour couper?
Vous faites un portrait de moi, Ali.
C'est
tous
pas
les
vrai,
jours,
c'est
absolument effrayant. Bien, allons-y.
Et vous, comment faites-vous pour couper le cordon une fois arrivé à la maison? 01 45 24 7000.